Si on y réfléchit, en fait, le monde, il est habité d'une multitude de petits rois et de petits royaumes. Nous aspirons tous, chacun individuellement, à régner sur notre petit royaume. Nous travaillons, nous investissons dans le but d'avoir un retour sur investissement. Notre argent est placé à la banque. Peut-être que vous avez acheté une maison ou un appartement. Peut-être que vous investissez dans l'avenir de vos enfants, dans leurs études. Ce ne sont pas des mauvaises choses en soi, hein. Mais est-ce que vous avez vraiment entendu le message de l'Ecclésiaste ? Sur quel fondement vos vies sont-elles construites ? Est-ce que vos vies sont construites sur votre capacité à rebondir après la pandémie ? Est-ce que vous avez confiance dans vos économies ou dans votre plan de retraite ? Ou est-ce que vous avez fondé vos vies sur le bon fondement qu'est Jésus-Christ ? Ces versets me rappellent une parabole de notre Seigneur qu'on trouve dans l'évangile de Luc, où il parle d'un homme riche qui avait amassé beaucoup de biens et qui s'est dit, eh bien, construisons-nous des greniers pour mettre tous ces biens et toute cette fortune. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Donc l'Ecclésiaste explore les limites de la sagesse, il explore les limites de la recherche et la poursuite du bonheur. Et ensuite, il revient au verset 12 du chapitre 2 sur les limites de la sagesse et de la folie. Et il constate une chose, c'est que la limite ultime de la sagesse et de la folie, finalement, c'est la mort. Ce sera le troisième point, s'il y en a qui prennent des notes. La mort, limite de la sagesse et de la folie. Il se demande finalement à quoi sert la sagesse si à la fin, elle n'apporte aucun profit. L'Ecclésiaste est arrivé à la conclusion dans les versets qui précèdent que finalement le rapport coût-bénéfice de tous ces investissements n'en valait pas la peine. Et donc il a continué à réfléchir. Il redit au verset 13 et 14 que la sagesse a des avantages indéniables. Encore une fois, la sagesse, c'est utile. Verset 13. J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé l'un à l'autre. Le sage a les yeux bien en place, il y voit clair, c'est une lumière dans l'obscurité, la sagesse. En ce moment, je cours plutôt pendant la journée, mais pendant toute une période, j'allais courir tôt le matin, quand il fait encore nuit et bien sombre, dans les jours de décembre et janvier, si vous avez déjà fait cette expérience. Et du coup, j'y vais avec une lampe frontale. Là encore, vous me trouverez hein, sur les sentiers là-bas, autour de Saint-Sulpice, aux confins de Bissy et de la Motte-Servolex. Et voilà, cette lumière, elle éclaire mon chemin. Et ça me permet d'y voir clair et de ne pas chuter. C'est le rôle de la sagesse. Mais l'Ecclésiaste se dit, mais au final, qu'on soit sage ou qu'on soit fou, on va tous au même endroit. La mort est réservée à l'un comme à l'autre. La poursuite de la sagesse, bien qu'elle apporte certains avantages, n'est finalement d'aucun secours face à la réalité de la mort de chacun d'entre nous. Le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, écrit l'Ecclésiaste dans ses versets, verset 16. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque dès le jour suivant, tout est oublié. Comment se fait-il que le sage meure, tout comme l'homme stupide ? Il y a quelque temps, je suis tombé par hasard sur un poème de Baudelaire. un poème qui s'intitule « Une charogne ». Il décrit dans ce poème comment un jour, il était en train de se promener avec sa bien-aimée, une belle journée d'été, il est tombé sur une charogne, le cadavre d'un animal mort. Il décrit cette charogne. C'est assez beau pour ceux qui aiment et pour ceux qui sont déjà tombés sur un cadavre d'animal dans la campagne ou dans la montagne. C'est très réaliste. Et puis après avoir décrit, je vous épargne la description, le poème est un peu long, cette charogne, eh bien, il arrive à la conclusion de cette manière. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Le poète arrive à la conclusion qu'on arrive tous au même endroit, qu'un jour on sera semblable à cette charogne. On n'aime pas l'entendre, mais la tombe, c'est la seule chose que nous avons tous en commun et qui nous attend tous. On ne peut avoir aucune certitude, quel que soit notre âge, quel que soit votre âge. Mais la mort physique, c'est une certitude. L'Ecclésiaste, dans ses versets, nous rappelle sobrement que la tombe nous attend tous, que nous soyons riches ou pauvres, sages ou stupides, tous nous subirons le même sort face à la mort. Nous sommes tous égaux face à celle-ci. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Et là, on arrive bientôt à la conclusion. L'Ecclésiaste est au bord du désespoir. Verset 20, j'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. Il a cherché à prendre sa destinée en main, mais finalement, il a compris que c'était vain. Il a vécu sa vie sous le soleil et finalement, il a réalisé que la plupart de ses efforts n'avaient servi à rien. Vivre sous le soleil, c'est vivre sa vie sans référence à Dieu. C'est vivre sa vie comme si finalement Dieu n'était pas là. Ou alors il est là-haut, mais il n'est pas concerné par les affaires des hommes. Ce style de vie n'apporte aucun avantage, d'après l'Ecclésiaste. On peut travailler pour les générations futures, mais finalement, notre labeur ne nous apportera rien. Nos enfants, au moins, pourront en bénéficier. Verset 21, en effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée, et c'est un grand malheur. Oui, que te retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela, sous le soleil. Vous pouvez travailler pour que vos enfants héritent de quelque chose, mais à la fin, vous n'avez aucune maîtrise sur la façon dont vos enfants vont utiliser ce que vous leur laissez. Bernard Tapie est décédé il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il avait des enfants. Mais une chose est sûre, c'est que Bernard Tapie, dans une génération, plus personne ne se souviendra de qui il est. Je pense que si je demande aux jeunes qui sont là, la première fois que vous avez peut-être entendu parler de Bernard Tapie, c'était ces dernières semaines, ou peut-être c'est même ce matin. Et là, vous allez chercher tout à l'heure dans vos téléphones qui était Bernard Tapie. Son souvenir va être vite oublié. C'est aussi le message de l'Ecclésiaste dans les versets que nous sommes en train de considérer. Mais au final, l'Ecclésiaste conclut « Oui, que retire l'homme, verset 22, de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil ? Ses journées ne sont toutes que souffrances et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. » Il y a une enquête récemment qui a été publiée sur la santé mentale des Français. Et là, on est ressorti que 23% des Français montrent des signes d'un état anxieux. Apparemment, c'est un niveau élevé, plus 10 points par rapport au niveau avant la pandémie. Et encore plus intéressant, 63% des Français, vous faites partie de ceux-là peut-être, déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours. Là encore, c'est un niveau élevé, plus 14 points par rapport au niveau d'avant la pandémie. L'Ecclésiaste avait vu juste. Il n'y a donc aucun espoir. Eh bien, si, il en propose un dans les versets qui suivent. À partir du verset 24, le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Tout cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi? Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie, mais au pécheur, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. L'Ecclésiaste et le reste de la Bible nous offrent une autre façon de vivre et nous proposent un espoir. Il nous offre une vision alternative. Selon la perspective biblique, la vie doit être vécue dans l'humilité et dans l'obéissance à Dieu. Nous devons accepter les limites que Dieu nous impose et trouver la joie et la satisfaction dans les choses ordinaires de la vie. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Le bonheur dont l'Ecclésiaste parle n'est pas un bonheur qui est réservé pour un futur hypothétique. C'est un bonheur dont nous pouvons profiter aujourd'hui, maintenant. La plupart de nos contemporains travaillent dur pour préparer leur retraite ou en vue de leurs vacances. Ils n'aiment pas vraiment leur travail, mais ils continuent parce qu'ils se disent un jour, je vais avoir un retour sur investissement. Je vais pouvoir profiter de ma retraite. Mais pour l'Ecclésiaste, le bonheur, il n'est pas à reporter pour un futur hypothétique. Le bonheur, il est maintenant dans les choses ordinaires de la vie. Il y a quelques semaines, un chrétien que je connais a posté un message sur un réseau social. Il faisait allusion à, il doit avoir 35 ans, je pense, à tous les rêves qu'il avait à l'âge de 15 ans. Et il constatait, c'était un dimanche matin, que 20 ans plus tard, il avait mis des déchets sur son tas de compost. Et il concluait par les trois lettres, les plus jeunes connaîtront, je ne vais pas vous dire ce que ça veut dire, mais VDM. J'étais surpris, parce qu'en plus, certains de ses rêves, de ses aspirations qu'il avait à 15 ans, ben, je ne les connais pas très bien, mais je sais qu'il les a accomplis. Et donc on a échangé quelques messages folie, mais finalement, ça montre que la plupart des croyants, c'est peut-être votre cas, ne sont pas différents du reste du monde. Les aspirations de beaucoup de chrétiens sont identiques. Ils recherchent le bonheur dans un futur hypothétique. Mais le bonheur, nous dit l'Ecclésiaste, il est là, maintenant. Tout comme Christophe Maé, le bonheur, il est là. Jésus enseigne la même chose. Il enseigne à ses disciples de ne pas s'inquiéter au sujet de ce que nous mangerons ou boirons, ni à propos de nos vêtements. Il nous dit dans le Sermon sur la montagne que s'inquiéter pour ces choses ne nous apportera aucun bénéfice et aucun avantage. Il nous recommande plutôt de chercher à amasser des trésors au ciel. L'apôtre Paul nous exhorte aussi à exprimer notre reconnaissance pour toutes les choses ordinaires de la vie. Il écrit en Colossiens, « Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, que vous buviez, que vous mangiez, que vous travailliez, que vous étudiez. » Les implications, et ce sera ma conclusion de ces versets, sont complètement à contre-courant de la pensée qui est communément acceptée, qui consiste à dire que, eh bien, tout le travail, tous les efforts que je fais, ils doivent me rapporter quelque chose. L'Ecclésiaste nous dit, la poursuite du bonheur et de ses avantages, ce n'est pas une fin en soi. Le bonheur, c'est un don de Dieu. Et il réserve ce bonheur à ceux qui reconnaissent leurs limites et qui vivent humblement dans la soumission à leur Créateur. Si vous marchez humblement avec Dieu le Père et avec son Fils Jésus-Christ, eh bien, vous ne gagnerez pas en notoriété. Vos économies seront sans doute modestes, mais vous coûterez à ces bénédictions quotidiennement. La nourriture, la boisson, un travail, des enfants, tous les efforts du monde sont futiles. Puissions-nous trouver le bonheur dans les dons quotidiens que sont la nourriture, la boisson, le travail. C'est là que se trouve le vrai bonheur. Et je vais finir avec juste le premier paragraphe d'un cantique que les anciens connaîtront peut-être, qui dit ceci, « J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. » La guérison, pardon. Amen.
Merci beaucoup, Emmanuel. Le temps passe.